Bien, je vous propose de reprendre donc avec ce séminaire. Donc la semaine dernière, un des objets qu'on étudie dans le cours, c'est formalisme, théorie des types, etc., qui intègre aussi bien des aspects de calcul et des aspects de démonstration, qui sont utilisables à la fois comme logique et comme langage de programmation. Et donc le séminaire est qu'on donnait lieu à des systèmes comme Coq ou Agda, qui sont utilisables dans les deux rôles. Et donc la semaine dernière, dans le séminaire de Pierre-Marie Dagan, on a vu plutôt l'aspect programmation, comment est-ce qu'on peut programmer avec un système comme Agda et en mettant des petits bouts de preuve dans les programmes. Et aujourd'hui, donc avec Asya Mabouby, on va plutôt voir l'autre côté, qui est comment faire des mathématiques avec ce genre d'outils et en y mettant des morceaux de calcul. Donc Asya est chargée de recherche à l'INRIA, travaille à Nantes dans l'équipe Galinette, et donc c'est à la fois une informaticienne et une mathématicienne, et elle a en particulier beaucoup contribué au projet Mathematical Components de formalisation de grandes mathématiques avec l'assistant de preuve Coq. Voilà. Merci d'être venue aujourd'hui, Asya.
Merci beaucoup pour cette introduction et surtout pour cette invitation. L'exposé d'aujourd'hui va parler donc de mathématiques assistées par ordinateur. Alors, tel que formulé, ce titre est assez large et pourrait donner lieu à des exposés de nature assez variée. Évidemment, aujourd'hui, je vais couvrir quelque chose qui est assez partiel et l'angle que je me propose d'adopter dans le cadre de ce séminaire, c'est celui du langage, les mathématiques assistées par ordinateur et le langage pour ce faire. Alors, le langage qu'on emploie pour communiquer des mathématiques, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, a beaucoup évolué selon les âges, les continents sur lesquels ces mathématiques se faisaient et se communiquaient. Néanmoins, on observe une certaine convergence en fait, du discours mathématique et de la façon de l'écrire et de le dessiner, peut-être, dès la deuxième moitié du XXe siècle. Et je pense qu'on peut considérer que l'un des facteurs importants de cette convergence, c'est le travail du collectif de mathématiciens Nicolas Bourbaki, qui publie un ensemble de traités couvrant les connaissances mathématiques enseignées et sujets de recherche de l'époque. Et dans ce texte de 1948, le collectif décrit la méthodologie en fait, et l'ambition du projet, et en particulier expose les principes de la méthode dite axiomatique. La méthode axiomatique consiste à essayer de dégager des abstractions et des structures qui matérialise en fait les phénomènes similaires et les correspondances que l'on peut observer lorsqu'on fait des mathématiques sur des objets qui semblent à première vue très distincts. Alors, ils insistent beaucoup dans ce texte sur la partie observation et expérimentation. Évidemment, ici, on est en train de parler de mathématiques dans un sens assez abstrait. Et il s'agit d'observation et d'expérimentation avec des objets de la pensée. Mais évidemment, dans ce contexte, le langage avec lequel on décrit et on exprime les observations joue un rôle particulièrement important, d'où l'impact et l'importance de cette entreprise. Alors, à peu près au même moment, peut-être tout de même une ou deux décennies plus tard, un autre événement joue un rôle majeur dans la façon dont on va expérimenter et observer les mathématiques. C'est le fait d'avoir accès à une puissance de calcul surhumaine par le biais des ordinateurs qui aujourd'hui sont entrés dans tous les bureaux de chercheurs, d'enseignants et même d'étudiants. Alors ici, dans ce texte de 2013, Thomas Hales fait un tour des preuves mathématiques qui reposent d'une façon ou d'une autre sur des calculs informatiques. Et on y observe des inventions assez fascinantes. Je vais juste lui en emprunter une. C'est celle qui est due à Benoît Mandelbrot de la géométrie fractale. Alors, dans une interview du début des années 80, il explique comment les conjectures qu'il a formulées en observant des images générées par ordinateur de mouvements browniens très simples l'ont amené à formuler des conjectures et des propositions profondes qui ont mis pour certaines 20 ans, à être rigoureusement prouvée par des travaux conséquents, comme ceux qui ont couronné Wendelin Werner par la médaille Fields. Et il est très, très insistant sur le fait que les observations qu'il a faites étaient absolument inaccessibles sans la capacité de visualisation de l'ordinateur. Alors, je voudrais donner un autre exemple qui trouve sa formulation dans un champ a priori très différent des mathématiques, qui est la théorie des nombres. C'est l'exemple d'une conjecture que l'on trouve sur le site de l'Institut Clay, qui rassemble une collection de problèmes dits du millénaire. Alors, c'est un choix, bien sûr, assez subjectif, mais qui, évidemment, met un coup de projecteur sérieux sur ces problèmes-là. Parce qu'en fait, si vous réalisez une preuve convaincante de l'une de ces conjectures, comme celle-ci, vous êtes riche et l'Institut vous donnera $1 million par preuve. Par conjecture prouvée, pardon. Ici, on est dans un champ assez différent. On parle de théorie des nombres, alors une branche pour laquelle il est fréquent de rencontrer des énoncés facilement intelligibles, mais extrêmement sophistiqués à démontrer. Et c'est encore une fois des explorations informatiques et des calculs de zéro de fonction de zeta, dans ce cas particulier, qui ont permis en fait de se convaincre que cette conjecture était si convaincante qu'elle valait bien d'être mise à prix de cette sorte. Évidemment, l'observation, l'expérimentation, de là à la preuve, il n'y a qu'un pas, et ce pas est évidemment franchi. On a aussi, dans la littérature contemporaine mathématique, des preuves réalisées par l'ordinateur. Alors peut-être que vous connaissez cette base de données bibliographique qui s'appelle DBLP, qui rassemble en fait les coordonnées précises de toutes les publications informatiques, ou en tout cas qui a vocation à le faire, toutes les publications informatiques vérifiées selon certains critères, disons. On peut l'interroger par nom d'auteur. Et voilà la fiche que l'on trouve pour cet auteur, Chaloche B. Ekad. Alors, il a publié pas mal de papiers, cet auteur. En fait, il y en a plus que ce que j'ai pu reproduire sur cette capture d'écran. La particularité de cet auteur, c'est que c'est un ordinateur, en fait. Donc, c'est le collaborateur de Doron Zeilberger. Je pense qu'on ne voit pas très bien, mais c'est le co-auteur de Chaloche B. Ekad sur le premier article, là. Et en fait, plus bas, il y a des articles dont il est le seul auteur, mais je pense qu'ils ont quand même été écrits par Doron Zeilberger. Doron Zeilberger est un mathématicien américano-israélien qui est un représentant majeur en fait, d'une école de mathématiques qui est non seulement constructiviste, qui s'intéresse en fait, à des procédés de construction mathématique, mais en plus qui rend ses constructions algorithmiques, efficaces, et qui essaye de pousser en fait la construction jusqu'à l'efficacité et l'implantation. C'est vraiment une illustration des nouvelles formes de mathématiques qui sont suscitées en fait, par la possibilité d'avoir accès à un ordinateur. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que ces travaux et ceux de ses collaborateurs ont non seulement permis de prouver des conjectures nouvelles en apportant des preuves à des résultats dont on ne connaissait pas de preuves auparavant, mais ont aussi permis d'expliquer certaines preuves qu'on comprenait mal. Je pense par exemple à la preuve d'irrationalité du nombre zeta de 3 qui est proposée par Roger Appéry à la fin des années 70. Une algorithmique développée en particulier par Doron Zeilberger permet de donner un sens mathématique à des calculs qui semblaient entre guillemets juste astucieux et de leur donner un cadre mathématique vraiment rigoureux. Alors sans aller jusqu'à cet extrême participer à un ordinateur au procédé de publication en tant qu'auteur, on trouve en fait aujourd'hui un nombre considérable de publications qui mentionnent de façon plus ou moins explicite et de façon plus ou moins précise le rapport, le rôle qu'a joué le calcul dans l'établissement de la preuve. Et pour rendre ces choses un petit peu plus précises, je vous propose de regarder cet énoncé, qui est celui de la conjecture faible de Goldbach, qui est une conjecture assez fameuse aussi, toujours en théorie des nombres. Donc là, on est vraiment dans le cas que je mentionnais tout à l'heure, dans un énoncé qui est assez élémentaire à comprendre. Il s'agit de prouver que tout nombre impair plus grand que 9 est la somme de trois nombres premiers impairs. 3 exactement, je s'entends. Alors, en fait, le problème vraiment célèbre, c'est la conjecture de Goldbach, qui porte sur les nombres pairs, et qui énonce qu'on peut toujours les décomposer en deux nombres premiers. Ceci a un corollaire trivial. Par contre, ces deux énoncés, le faible comme le fort, sont des problèmes difficiles. La version forte est toujours ouverte. Et la version faible a été annoncée prouvée par Harald Elfgott en 2013, qui dépose sur le serveur de Preprint Archive une série d'articles dans laquelle il annonce avoir terminé la preuve de cette conjecture. Et cette preuve est considérée comme convaincante. Donc, il s'agit d'une preuve monumentale à plusieurs égards. Donc, voilà les trois articles que l'on peut lire pour avoir une vue d'ensemble de la démonstration. Le dernier article, en fait, comme vous pouvez le voir, s'intitule « Vérification numérique de la conjecture en question jusqu'à un nombre vraiment très grand ». Et donc cet article-là, en fait, explique que avec des techniques d'arithmétique rigoureuse, on peut vérifier en fait la conjecture jusqu'à un nombre suffisamment grand pour qu'on puisse avoir accès en fait, à des techniques de démonstration qui, celles-ci, se passent de l'ordinateur et permettent en fait, d'attaquer le problème avec les outils, en améliorant les outils théoriques accessibles par les contributions de Harald Elfgott. Alors, je dis que les deux premiers articles, qui sont la partie, disons, non calculatoire, enfin, non nécessairement calculatoire de la preuve, sont accessibles à un relecteur, disons, humain. Ce n'est pas tout à fait vrai, en fait. Alors là, c'est un extrait du deuxième article, sur les arcs majeurs. Voilà ce qu'on peut lire. On s'intéresse ici à prouver une certaine inégalité. Dans cette inégalité, on a la racine carrée d'une certaine intégrale qui se retrouve bornée par cette quantité-là. Puis il y a une petite note de bas de page qui dit que en fait, cette quantité-là, on l'a obtenue par un procédé d'intégration rigoureuse en utilisant un logiciel dont on donne le nom, la référence et autant d'informations que possible pour que ce calcul soit reproductible par le relecteur. Alors, ce n'est pas tout à fait de même nature que la vérification de la conjecture jusqu'à un grand nombre, où il y a des contributions algorithmiques et d'implémentation à obtenir pour rendre juste ce calcul possible. Mais tout de même, ici, il s'est passé quelque chose, et il s'est passé quelque chose qu'on peut reproduire, mais pas vérifier avec le même sens de vérification que ce qu'on a pour le reste de l'article. Et en fait, je me suis intéressée à cette question en tombant sur ce post, en fait, sur cette question posée par l'auteur en fait de la preuve, à peu près au moment où il dépose ses articles. Et donc, il demande à la communauté, par le biais de ce forum, voilà, j'ai besoin d'évaluer certaines intégrales d'une fonction à une variable. Ça a l'air d'être un problème qu'on sait calculer, disons, qui fait l'objet d'exercices de classe préparatoire, par exemple. Mais alors, dans ce cas-là, les logiciels, disons, standards que les mathématiciens peuvent utiliser dans leur bureau à côté de leur tableau, ne peuvent pas les attaquer de façon symbolique. Alors, il dit qu'a priori, il a l'impression d'avoir accès à deux possibilités, soit utiliser des choses qui sont, disons, difficilement convaincantes avec un grand degré de rigueur sur le convaincant, soit écrire moi-même mes programmes, mais bon, est-ce qu'il y a une façon de faire le standard? Voilà la question. Et donc, avec deux autres collègues, Guillaume Melchion et Thomas Sibu-Pinot, on s'est demandé si les assistants de preuve, qui ont un peu fait l'objet de diverses allusions depuis le début de ce cours, et les méthodes dites de vérification de programme pouvaient apporter une réponse satisfaisante en fait, à ce type de questions. Alors, voilà le genre d'intégrale qu'il s'agit de calculer. Là, j'ai reproduit sous une forme un petit peu éditée l'intégrale qui est bornée dans le préprint que j'ai montré tout à l'heure. Et le problème, c'est que pour ce type d'intégrale, on ne peut pas espérer avoir une jolie formule. Une formule qui donne, je ne sais pas moi, cette expression en termes de une fraction rationnelle avec des pi, des constantes, etc. Ce n'est pas possible. La classe de fonction qui est intégrée ici sort de cette classe et en fait, on sait faire ce type de formule pour un nombre extrêmement petit de cas particuliers. Donc en fait, là, ce qu'on t'intéresse à faire, c'est vraiment d'estimer cette quantité, hein, d'arriver à calculer par exemple, une borne inférieure, une borne supérieure, ou à borner la valeur absolue. Enfin, en tout cas, de faire cette estimation-là. Alors ici, pour cette estimation, en fait, on va avoir besoin probablement d'estimer cette quantité ici, pi, d'estimer ces fonctions-là. Et en fait, d'une façon générale, ce qu'on va chercher à faire, c'est à faire des calculs précis, rigoureux, avec des nombres réels en machine. Alors, les nombres réels en machine, on les représente par des approximations précises, autant que faire se peut, ou autant qu'on doit le faire. Comment est-ce qu'on a accès à ces approximations ? Eh ben, on les représente par ce que l'ordinateur sait bien manipuler, c'est-à-dire des nombres entiers ou rationnels. Et plus précisément, dans le cas des réels, toute l'arithmétique efficace qui est développée pour manipuler les nombres réels est faite à base de l'arithmétique flottante. Alors, les flottants, c'est un sous-ensemble de rationnels qui permet d'avoir des algorithmes très efficaces, mais aussi très subtils. Donc, lorsque on s'intéresse à vérifier la correction en fait d'un calcul effectué par une arithmétique flottante pour exprimer une propriété de nombre réel, on commet deux natures d'erreurs. D'abord, on approxime l'objet réel. Par exemple, on approxime une fonction par un polynôme. Il y a une erreur de méthode. Et puis, il y a aussi les erreurs d'arrondi qu'on fait en remplaçant tous les nombres réels qui nous intéressent par des nombres flottants. Et ça, c'est quelque chose qui est notoirement difficile à étudier. Alors, si on veut vraiment être absolument rigoureux, ce qu'il faut faire, c'est tenir compte de ces marges que l'on doit prendre et travailler non pas vraiment avec les approximations seulement, mais aussi avec les bornes d'erreur qu'on fait lors des calculs et se préoccuper d'une arithmétique d'intervalle où l'intervalle exprime l'erreur qu'on a commise à la fois par notre méthode et par nos arrondis. Donc, pour arriver à implanter en fait, un outil qui réponde aux questions d'Ralph F. Goetz, il fallait utiliser des bibliothèques dans un assistant de preuve qui sache parler de réel, de flottant, d'intervalle. On était dans le cas favorable où d'autres personnes, dont l'un de mes collaborateurs, avaient travaillé à implanter des bibliothèques qui donnent accès à ces objets-là. Et donc, allons-y, comment est-ce qu'on peut faire pour proposer un outil comme ça à la communauté. Alors, évidemment, on ne va pas travailler sur une classe arbitraire de fonctions. On va travailler sur une classe de fonctions où on sait faire quelque chose. En particulier, on sait fournir des bonnes approximations par intervalle. Donc, voilà la description de la classe de fonctions sur laquelle le programme va savoir travailler. Alors, c'est une définition par récurrence, par induction, d'une syntaxe abstraite. Donc, je définis une classe d'expression qui est soit une variable x, là, ce n'est pas une collection de variables, hein, j'en ai vraiment qu'une seule, soit des constantes qui sont des flottants, soit des constantes qui ne sont pas des flottants, par exemple pi ici, des opérations arithmétiques sur les expressions, l'addition, la valeur absolue, etc. Et puis des fonctions mathématiques, comme la prise de racine carrée, le cosinus, etc., etc. Alors, si vous avez suivi la séance de la semaine dernière, c'est assez semblable à ce que Pierre Evariste a défini comme langage d'expression arithmétique. Et donc, ce qu'on va s'empresser de faire, ici, on n'a vraiment que des arbres de syntaxe. Hein, j'ai vraiment défini des arbres avec des étiquettes que j'appelle plus, j'appelle cos, etc. Mais j'ai évidemment envie de lire ces objets-là comme des fonctions. Alors, je vais me donner une fonction d'interprétation qui va transformer ces expressions, ces arbres de syntaxe, en de véritables objets qui prennent un nombre réel en entrée et calculent un nombre réel. Alors, par exemple, quand je veux comprendre cet arbre-là qui est réduit à un nœud comme une fonction, eh bien, j'interprète cet arbre réduit à un nœud ici comme la fonction identité. Si je veux interpréter cette expression-là, eh bien, je prends la fonction qui a x associé pi plus cosinus x. Mais là, ici, quand je sors des crochets, c'est vraiment les définitions mathématiques idéales qui me sont fournies par ma bibliothèque d'analyse réelle. Alors, ça, c'est ma vue des expressions comme les objets mathématiques idéaux. Je vais faire la même chose avec mes interprétations comme fonctions par intervalle, où cette fois-ci, je suis en train de parler d'algorithme. Donc, j'interprète maintenant une expression comme une fonction qui mange en entrée un intervalle. Alors, qu'est-ce qui représente cet intervalle? Il représente l'approximation à laquelle je connais mon entrée. Et étant donné une approximation de l'entrée, cette fonction me calculera une approximation de la sortie. Donc, toujours pareil, si je veux interpréter le nœud X, l'arbre réduit à un nœud X, eh bien, je construis la fonction par intervalle identité qui prend en entrée un intervalle et puis qui calcule l'intervalle. Je ne peux pas connaître mon entrée plus finement que ce que j'ai donné au programme. Si je veux jouer le même jeu avec la même expression, X plus cos X, mais pareil, je vais mettre de la graisse partout parce que ici ce sont des intervalles. Alors mon entrée c'est un intervalle X. J'ai une fonction cosinus qui est non triviale. Hein. Il s'agit de construire un algorithme qui calcule une approximation du cosinus, étant donné une approximation d'une entrée. Alors évidemment, je peux être toujours très précautionneux et renvoyer un intervalle non informatif, comme l'intervalle qui contient tous les réels. Mais ici, je vais essayer d'être très précis. Et il y a tout un pan d'algorithmique qui permet d'écrire ce genre de fonction de façon efficace. Et là encore, pi ici, ça c'était la constante idéale. Là, je me suis plongée dans le monde des intervalles. C'est un intervalle qui contient pi à une précision possiblement bonne, possiblement faible. Comment est-ce que je vais relier ces deux vues sur les mêmes arbres de syntaxe ? Alors, j'ai un petit peu triché dans ma présentation. En fait, pour être complètement honnête, il faudrait que je rajoute à mes ensembles d'intervalles et de réels un point exceptionnel que je vais noter bottom. Parce qu'en fait, si vous avez regardé attentivement ma classe de fonctions, j'ai des divisions, j'ai des tangentes. Mes fonctions, elles sont partielles. Il y a des entrées réelles pour lesquelles certaines expressions ne sont pas définies. Donc voilà à quoi va me servir cette valeur exceptionnelle, à dénoter le domaine de partiel, possiblement partiel, d'une fonction. De manière analogue, je vais avoir cet élément exceptionnel dans le monde des intervalles. Et la propriété va être que le bottom, l'élément exceptionnel des intervalles, c'est le seul qui contienne le bottom des réels, pour que ces deux éléments exceptionnels se relient bien. Alors, dans ce cadre-là, voilà le genre de choses que je vais pouvoir écrire. Des théorèmes, des énoncés qui expriment la correction de mes programmes qui calculent les extensions par intervalle. Comment est-ce que je peux expliquer ça ? Ben, je l'explique en relativisant mon théorème de correction aux expressions pour lesquelles je sais faire des calculs, c'est-à-dire que je quantifie sur une expression, et je dis que quand je me donne un intervalle, pour tout nombre réel qui appartient à l'intervalle, où là j'ai un nombre réel de R vraiment, et un I ici graissé, donc un intervalle, si je prends cette expression-là et que je la comprends comme une fonction mathématique appliquée à ce réel mathématique, alors j'obtiens un nombre réel qui doit appartenir à l'intervalle que j'obtiens par calcul en évaluant cette fonction par intervalle sur l'entrée. Okay ? Donc voilà, la bibliothèque qu'on a proposée, en fait, c'est vraiment construit sur cette idée-là et ça propose évidemment des façons raisonnablement effective, j'ose pas dire efficace, pour arriver à faire ces calculs de façon raisonnable. Donc comment ça se passe en pratique ? L'utilisateur nous propose une intégrale à estimer sous la forme, encore une fois, idéale, intégrale de A à B de F de X dx. Alors A, ça peut être pi, F, ça peut être tangente. Là, je suis vraiment dans le monde des réels. Et je veux montrer que cette quantité réelle appartient à cet intervalle-là. Alors, je vais m'empresser de vérifier que j'ai bien les possibilités de faire ça, c'est-à-dire que ma fonction et les bornes d'intégration sont bien dans mon catalogue. Donc ça veut dire que les bornes qui étaient tout à l'heure A et B, et la fonction intégrée qui était tout à l'heure F, en fait, je peux les voir de façon absolument interchangeable comme l'évaluation dans R d'une certaine expression de mon catalogue. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai appliquer mon théorème de correction qui me dit que lorsque j'ai une quantité qui est exprimée de cette forme-là, elle appartient toujours à la version où j'ai pris les mêmes expressions, mais changé l'interprétation en intervalle. Et si j'évalue cette quantité-là, j'espère pouvoir trouver un intervalle qui est plus fin que ce que j'attendais au départ. Et si c'est le cas, j'aurai réussi à calculer et valider formellement mon estimation. Alors, c'était un jeu assez amusant que de se confronter en fait aux outils, réalistes qui permettent de faire ce type de calcul. Alors là, ici, cet exemple-là, c'est l'exemple qui est donné par Ralph Elfgott lui-même dans sa question, en fait, un peu plus bas. Et c'est un exemple joué, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans sa preuve. Et donc, c'est un polynôme fois une exponentielle, une valeur absolue, rien de bien méchant, et puis voilà la valeur. Alors, quand on a commencé à faire ces expériences, c'était en mai 2016, et on s'est comparé en fait à différentes natures d'outils. Alors, Octave, c'est un logiciel qui permet de faire des calculs numériques sur des flottants. Donc, il ne s'agit pas ici d'arithmétique d'intervalle. C'est vraiment tourné vers l'efficacité. Et donc, il propose deux primitives en fait, pour calculer ces intégrales. Et donc, selon celles qu'on appelle, on a 10 ou 9 chiffres corrects, mais pas plus. Au-delà, les chiffres sont incorrects. Alors, Intlab, comme son nom le suggère, c'est un outil qui permet de faire de l'arithmétique d'intervalles, et c'était le logiciel en fait, qui était élu la meilleure réponse en fait, à la question de Harald Elfgott. Alors, dans ce cas-là, on a une primitive qui s'appelle VerifyQuad et qui est disponible pour faire ce type de calcul. Et là, la réponse était fausse, sans aucun avertissement. Alors, qu'est-ce que j'entends par avertissement ? C'est que si on fait appel à un autre outil qui aussi implémente des outils rigoureux au sens manipule des intervalles et qui sont en fait, celui-ci c'est en fait l'outil qui est mentionné par Elfgott dans son article sur les arcs majeurs, là l'outil répond qu'il ne sait pas faire. Et en fait, qu'est-ce que c'est le problème ici ? C'est que tous ces outils-là sont basés sur des algorithmes dits de quadrature. Et en fait, pour que ces algorithmes soient corrects, car ils le sont, on peut faire une preuve mathématique de correction de ces algorithmes, il faut assurer certaines propriétés de régularité de l'intégrant ici, et en particulier que l'intégrant est continuellement dérivable 4 fois. Et là, cet exemple a été bien choisi. Et la valeur absolue introduit un problème de continuité à l'origine qui va apparaître quand on aura dérivé 4 fois ici. Donc, en fait, le problème a été résolu dans Intlab en fait, supprimant le support pour la valeur absolue, parce que c'est trop difficile en fait, de détecter qu'on a des problèmes potentiels. En fait. Donc, voici en fait, l'exemple qui est vraiment celui qui est tiré de l'article que je vous ai cité. Alors, je vous ai donné un peu des ordres de grandeur de temps, parce que je n'ai pas joué à ce jeu-là sur le transparent précédent, c'était particulièrement injuste. Les outils que j'ai mentionnés sont extrêmement rapides. Ici, les calculs que je mentionne ici sont effectués en utilisant l'assistant de preuve Coq comme langage de programmation. Donc, tout est calculé à l'intérieur de la logique implantée par Coq. Et vous voyez que les temps de calcul sont absolument ridicules. Enfin, pour des outils comme ceux que j'ai cités auparavant, c'est totalement inacceptable, ce type de temps. Par contre, ici, pour obtenir la précision en fait, qui est mentionnée par l'article, on est à peu près par là. Quoi. En une seconde, c'est bon. On arrive à valider en fait, assez de chiffres pour obtenir l'estimation indiquée dans l'article. Et on obtient assez de chiffres pour voir que le résultat qui est donné là est incorrect, en fait. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que la preuve est fausse. En fait, il y a besoin de moins de chiffres que ce qui est donné pour valider l'inégalité qui est là. Et par ailleurs, l'auteur est quelqu'un de très précautionneux, comme on peut le voir du fait que sa preuve ne tombe pas, mais également parce qu'il est en train de réviser sa preuve et il utilise des arguments différents, des outils différents. Donc, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus sur le sens de mon transparent ici. Je veux juste insister sur le fait que même en étant très précautionneux, et en utilisant des outils eux-mêmes très précautionneux, il est vraiment difficile, en fait, d'assurer ce genre, la correction de ce genre de problème. Et le problème est vraiment... le verre est vraiment dans le fruit très tôt, en fait. Le problème, c'est quel est le sens qu'on donne aux expressions mathématiques que j'ai décrites par mes arbres de syntaxe abstraite. Par exemple, prenons la fonction cosinus. Si vous regardez sa définition dans la bibliothèque mathématique, celle qui parle de nombres réels, idéaux, vous allez trouver probablement quelque chose comme ça. Donc c'est une série, puis il y a une preuve que cette chose-là est une fonction puisqu'il y a un rayon de convergence, etc., etc. Si vous regardez la définition qui est manipulée par un logiciel d'arithmétique rigoureuse, ça va être ça, la définition de cosinus. Et le problème, c'est que pour arriver à garantir la correction d'un algorithme de calcul par quadrature, il faut relier les propriétés mathématiques assez immédiatement visibles sur la version précédente avec les propriétés mathématiques des calculs effectués par ce problème-là. Et c'est quelque chose qui est foncièrement compliqué. Alors, c'est intéressant, en fait, de se demander quelles sont les structures de données qui sont utilisées quand on fait un certain pas de preuve. Est-ce qu'ici, on utilise le même sens de cosinus qu'à cet autre endroit de son article ? Et ce problème de structure de données est assez riche. Ça peut être un problème mathématique en soi. Et je voudrais juste mentionner brièvement qu'il y a encore d'autres façons de définir le cosinus, comme par exemple ici, d'expliquer que c'est la solution avec certaines conditions initiales de cette équation différentielle très simple. Et ce point de vue, en fait, permet de ramener la définition d'une fonction cosinus qui a l'air très infinitaire et très continue à un objet qui commence à ressembler beaucoup à de l'algèbre et qui donc peut être utilisé par des algorithmes très symboliques, moins susceptibles d'être entachés d'erreurs, ou en tout cas plus tard, que les algorithmes qui sont immédiatement sur des flottants. Et ce point de vue est beaucoup plus riche que sur ce simple exemple et beaucoup plus riche que sur cette nature d'algorithme. Et c'est tout un point de vue de recherche que vous pouvez, par exemple, retrouver développé dans ce texte de survey. Alors, ici, on a vu un petit peu quelle est la nature de bug, entre guillemets, qu'on peut observer dans les programmes qui font des calculs pour l'épreuve mathématique. Et cette nature de bug vient en fait du glissement de sens qu'on a en utilisant des symboles en fait pour faire à la fois des opérations qui sont très algorithmiques ou très abstraites. Alors, ce problème de glissement de sens ou de polysémie, c'est pas du tout quelque chose qui est propre en fait à la preuve calculatoire. Le fait qu'on arrive à lire des mathématiques sophistiquées comme celles qui font l'objet des recherches d'aujourd'hui repose sur le fait qu'on arrive en fait à construire un appareil de notation et de convention de discours qui permet de rendre les objets compliqués intelligibles en demandant au lecteur une certaine culture pour absorber les usages et les abstractions qui sont bien adaptés au niveau de discours. Et c'était l'une des motivations en fait, de la démarche bourbakiste que j'ai mentionnée, c'était vraiment d'avoir des abstractions susceptibles en fait, de communiquer l'intelligibilité du discours mathématique. Alors je voudrais complètement changer de point de vue maintenant pour passer à des objets non calculatoires, et l'exemple est choisi pour ça, pour vous montrer ce genre de figure de style qu'on peut être amené à lire. Donc, je vais passer à un exemple absolument élémentaire, mais relativement emblématique, des structures en fait introduites par la méthode axiomatique. Donc ici, la structure de groupe, qui peut être finie, par exemple, c'est quelque chose qui est donné par un ensemble, des éléments et des opérations sur cet ensemble, qui donne un langage de termes, et puis une collection d'axiomes, alors où axiome ici doit être entendu dans le sens de propriété valable sûre, qui caractérise la structure. Donc dans le cas de groupe, on a un ensemble, comme je l'appelle G ici, une loi binaire qui est notée par cette notation fixe étoile, et un élément neutre qui sera noté par le 1 ici. Et les axiomes constitutifs de la structure sont le fait que cette loi de groupe, cette loi binaire est associative, et que tout élément de l'ensemble a aussi un inverse que je note G-1, donc on pourrait dire qu'il y a une autre loi unaire et qui a les propriétés qu'on attend d'un inverse. Okay. Alors, vous connaissez en fait les groupes, je ne sais pas à quel degré de familiarité vous avez avec ça, mais la structure de groupe, c'est essentiellement en fait la bonne structure pour abstraire toutes les collections d'objets qui peuvent se composer et s'inverser. Et alors, le cas typique de collection d'objets qui ont ces propriétés, c'est des opérateurs qui préservent une forme régulière, comme un polyèdre régulier ou un polygone régulier, ou ici un cube avec certaines colorations. Donc, quand on est dans un assistant de preuve, on peut arriver à une description de la structure de groupe qui est relativement proche de ce que j'ai utilisé sur mon transparent. Donc là, je vais vous donner un exemple de choses qu'on écrit en coq. Et je vais exploiter de façon essentielle les choses que Xavier a présentées dans son cours sur le calcul des constructions. Je vais utiliser la notion de paire dépendante. Et en fait, sa généralisation à ce qu'on appelle des records dépendants. Donc on va essayer de lire ce code pas à pas. Ici, je déclare une définition de type qui va s'appeler mixing off. Bon. Et cette parenthèse-là, t2.type, doit être entendue comme un paramètre. Donc en fait, je définis une famille de types qui est paramétrée de façon polymorphe par un type t. Et les habitants de ce type, quels sont-ils? Les habitants de ce type sont des tuples qui rassemblent plusieurs objets. Alors, les trois premiers objets, ce sont des objets qui dépendent de T, en fait. Alors, une opération qui est de type T, flèche T, flèche T, donc c'est une opération binaire dont les arguments sont de type T et le résultat de type T. Il y a un élément, alors là on voit que le type T doit être pointé, il a un habitant. Et puis il y a une autre loi, une R cette fois, donc c'est une fonction qui est de type T flèche T. Et puis les derniers éléments de ce tuple, en fait, ce sont en fait des preuves. Des preuves d'énoncés associatifs de mul, left id one mul, involutif de inv. Alors ces énoncés porte sur les objets qui sont stockés un peu avant dans le tuple. C'est pour ça qu'on parle de paire dépendante ou de généralisation de celle-ci. Là, j'ai stocké d'abord un objet qui a ce type-là, et puis un peu plus tard, je stocke un autre objet, une preuve, dont le type dépend de la valeur de mul. Donc voilà, donc, j'ai défini le type des paquets de choses paramétrés par un type T, et ces paquets contiennent deux opérations, un élément et une série de preuves. Okay. Maintenant, ce que je vais appeler un groupe, en fait, c'est encore une fois un record, donc un tuple, une généralisation de paires dépendantes. Cette fois-ci, j'utilise un synonyme de record qui est disponible en coq, et qui est le mot structure, pour bien montrer l'analogie en fait, entre les structures introduites par la méthode axiomatique et ce type de représentation. Donc cette structure, en fait, elle va stocker, cette fois-ci, un type, et puis deux autres éléments qui sont dépendants de ce type. Le premier va me dire que sur ce type, je dispose de tous ces objets-là. Et le troisième va me dire que ce type, en fait, est un type fini, parce que j'avais envie de définir les types finis. Et je peux comme ça, en fait, organiser des collections d'objets et de propriétés d'axiomes sur ces objets de façon arbitrairement imbriquée ou dépendante. Ok ? Donc maintenant, je vais revenir sur la définition qu'on peut trouver dans un texte sur papier. Là, jusqu'ici, rien n'a changé. On a toujours un groupe fini avec ses éléments, ses opérations et ses axiomes. Et puis, on lit souvent quelque chose comme ça. Par abus de notation, on pourra écrire soit G un groupe tel que pour tout élément de G, G fois G égale 1. Alors là, il y a un petit glissement de sens quand même, parce que tout à l'heure, G, c'était l'ensemble, et donc d'un point de vue ensembliste, on peut parler des éléments de l'ensemble. Et là, maintenant, j'ai dit que G, c'était le groupe, et j'ai dit que G appartenait à ce groupe. Bon, alors, on voit bien ce qu'on veut dire, on fait ça tout le temps. Mais quand même, si on cherchait vraiment à expliquer ça à un ordinateur, il pourrait protester. Et j'insiste, on fait ça tout le temps. Pensez aux probabilités quand vous dites que oméga est l'espace d'état, par exemple. Vous pensez tantôt à un ensemble dans lequel vous prenez des événements, tantôt à cet ensemble muni de ces probabilités. Et c'est vraiment quelque chose qui est tellement fréquent qu'on ne s'en rend plus compte. Alors, ça, c'est une figure de style. C'est quelque chose qui consiste à représenter un objet par une partie de celle-ci. Et en fait, en coq, c'est possible de lui faire absorber ce genre de figure de style. Regardons un peu comment est-ce qu'on énonce ce fait absolument élémentaire qui énonce que si je prends un groupe, alors ici c'est un sous-groupe d'un groupe plus grand, mais peu importe, alors son cardinal est positif, strictement. Pourquoi ? Parce que dans un groupe, il y a un élément, c'est l'élément neutre, donc le cardinal, ça forcément strictement positif. Donc là, on est dans le cas d'une phrase mal typée au sens strict, parce que mon symbole de cardinal, j'entends vraiment le cardinal des ensembles. Hein. Il s'agit d'une opération qui prend un ensemble fini et qui donne son cardinal. Et ici, là, j'ai un groupe, donc il faut que j'explique que, en fait, ce que je considère, c'est pas exactement le groupe, c'est la projection de ce paquet de choses qui est un groupe sur la composante qui me donne la collection, l'ensemble sous-jacent, en fait. Donc, tout à l'heure, on avait représenté un groupe par un tuple de choses. Il y a une fonction, que j'ai notée G7 ici, qui extrait de cette collection l'ensemble sous-jacent. Et si je l'insère, là, à ce moment-là, c'est bon. G7, c'est quelque chose qui prend un groupe, qui envoie un ensemble fini, et tout va bien. Là, j'ai une composition de choses bien typées, et l'assistant de preuve sera content. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette fonction qui projette un groupe sur l'un de ses composantes, ici l'ensemble sous-jacent, j'ai déclaré ça comme ce qu'on appelle une coercion, c'est-à-dire une fonction qui est là pour être insérée silencieusement et automatiquement quand il y a un glissement de sens, comme ça. Et sous certaines hypothèses, que je suis quand même en train de faire quelque chose de raisonnable et qu'il y a une chance que ce que j'écrive garde du sens, je peux déclarer comme ça un ensemble de coercions qui qui simule en fait les glissements de sens et les synecdoques qu'on a l'habitude de lire sur papier. Alors continuons un petit peu pour voir si ces glissements de sens sont vraiment efficaces lorsqu'on les met en œuvre. Quand on fait de la théorie des groupes finis, on s'intéresse bien sûr à la combinatoire des éléments d'un groupe, mais en fait, une chose qui est au moins aussi importante, c'est la combinatoire des groupes entre eux. C'est-à-dire que si je prends des sous-groupes d'un même groupe, je vais pouvoir former des nouveaux groupes et je vais les étudier, ça va me donner des informations sur le groupe qui les contient. Donc si je prends H et K des groupes, alors j'ai mis de la graisse pour dire que là, c'est vraiment les structures que j'entends, les choses qui contiennent un ensemble, mais aussi des propriétés. Alors on a des sous-groupes qui sont l'intersection, le normaliseur, le centre, etc. Donc ici, ça ne se voit pas très bien, mais j'ai de la graisse aussi sur mon intersection ici. Ce que je veux dire vraiment, c'est que là, je note un groupe avec une opération qui est typée comme je prends deux groupes et j'en fabrique un autre, et c'est son ensemble sous-jacent qui se note sans graisse. Et là, j'ai des opérations ensemblistes. H, c'est l'ensemble sous-jacent de H, K, l'ensemble sous-jacent de K, intersection, c'est l'opération ensembliste d'intersection. Mais vous voyez que c'est pédant, là. Hein. Si on a besoin de faire ce genre d'annotation à chaque fois qu'on utilise cette expression, on va vite rendre les choses beaucoup moins intelligibles. Mais bon, en fait, quand même, quand on est dans un cadre formalisé, où il faut expliquer tout ça à l'ordinateur, il va bien falloir faire ces preuves, qui sont des preuves relativement élémentaires, et puis donner du sens en fait, à ces constructions de groupe. Donc, je reviens à mon exemple de tout à l'heure, où j'avais énoncé un lemme qui était censé me permettre d'obtenir que n'importe quel groupe fini a un cardinal strictement positif. Donc si je fabrique un énoncé, alors ici j'ai un énoncé coq qui est 0 et strictement inférieur au cardinal de H inter N de K. Et puis au-dessus de la barre, en fait, vous avez les types des objets que j'utilise dans mon expression. Alors ici, le 0, ça c'est un nombre entier, mais H et K, ce sont des sous-groupes d'un certain groupe plus grand. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? J'espère que ce résultat-là, qui est censé être quantifié sur tout groupe, peut être utilisé pour cet exemple particulier. Et là, je vais faire un aparté pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'utiliser des théorèmes dans un assistant de preuve. Alors, je vais prendre un exemple beaucoup plus simple, un exemple qui porte sur les entiers. Et supposons que je veuille montrer que cet entier-là, 2 fois 17 plus A fois B fois C sur 1, est impair. Alors ici, j'ai des nombres entiers, et puis j'ai aussi A et B, deux entiers. Et puis j'ai une hypothèse, bienvenue, qui me dit que pour tout x, y entier, un entier que je peux décomposer de la sorte est impair. Bon, c'est un exemple totalement joué, hein. Il est vraiment là juste pour illustrer mon propos, que en fait, je vais arriver à faire progresser ma preuve en donnant une seule instruction au système, une instruction qu'on appelle une tactique. Et cette tactique consiste à lui dire « utilise l'hypothèse H pour faire progresser ma preuve et de fait la terminer ». Qu'est-ce qui va se passer quand je vais utiliser cette hypothèse H? En fait, l'assistant de preuve va regarder quel est l'énoncé de H et le considérer en fait comme un énoncé à trous, donc où X et Y, les variables universellement quantifiées, sont des trous qu'il faut boucher. Et il va essayer de comparer ce motif-là à la formule que je me propose de démontrer. Alors, ce qu'on essaye ici, c'est de filtrer ce motif-là contre cette formule-là. Et puis là, en regardant juste, en décortiquant pas à pas l'arbre qui représente ces deux termes, on arrive facilement à se convaincre que si on prend x, cette sous-expression, et y, cette sous-expression, les choses vont bien se passer. Et de fait, Koch fait ce calcul sans que j'ai besoin de lui donner d'autres informations pour h. Cette instruction-là prend H, fait le calcul, trouve que là, c'est possible d'appliquer H avec ces solutions et accepte de résoudre ce problème. Okay ? Donc maintenant, je reviens à mon énoncé. J'ai un truc qui ressemble à mon H de tout à l'heure. J'ai une formule que je voudrais montrer. Est-ce que j'arrive à faire un apply card G, GT0 ? Alors d'abord, j'ai dit qu'il y avait des glissements de sens. Ici, il y en a un certain nombre. Donc d'abord, on a vu ici qu'on avait introduit silencieusement une projection du groupe sur son ensemble. Mais en fait, on en a aussi fait de telles projections dans le but qu'on se propose d'atteindre. Donc là, on avait une intersection ensembliste qui portait sur des choses qui ne peuvent pas être des groupes. Pourtant, H est un groupe, donc on a une projection ici aussi. Et ici, en fait, le N du normaliseur, c'est aussi une construction ensembliste. Donc il faut aussi corriger l'argument qu'on lui passe. Et K étant un groupe, il faut mettre aussi une projection là. OK. Donc maintenant qu'on a bien corrigé toutes les figures de style et qu'on les a explicitées, il nous reste à faire ce filtrage. Et donc ici, on a une quantification sur G. Donc le motif de notre lemme est celui-ci. Il faut qu'on trouve un G inconnu. Et voici à droite la formule qu'on se propose d'établir. Alors, on n'est pas du tout dans le même cadre que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait des symboles qui correspondaient jusqu'aux feuilles où on avait des trous d'un côté et des sous-expressions de l'autre. Et il suffisait de dire « et voilà ». Et là, ça ne va pas du tout. Là, on a un symbole qui s'appelle G7 en haut. Ici, on a un symbole d'intersection. Il n'y a pas moyen que quelque chose d'aussi simple que tout à l'heure permette de conclure. Alors, on doit résoudre ce problème d'unification. Et de fait, en fait, il n'y a pas de solution à ce problème. Parce que si je prends un ensemble A1 et A2 quelconque, et que je forme son intersection, il y a très peu d'espoir que je puisse comprendre ou faire comprendre à l'unification que cet ensemble, c'est la projection d'un certain groupe que je ne lui donne pas. Par contre, si A1 et A2 sont munis d'une structure du groupe, si A1 et A2 sont les ensembles sous-jacents de deux groupes, alors ben, c'est exactement les trivialités qu'on avait énoncées tout à l'heure. C'est-à-dire que les constructions canoniques de groupes qu'on avait faites sur l'intersection de groupes devraient nous permettre de conclure. Alors, si j'essaye de reformuler cet énoncé-là en termes d'équation d'unification comme je l'ai fait sur ce problème-là, voilà ce qui se passe. Si je dois trouver le groupe sous-jacent d'un groupe inconnu X et l'identifier par identification avec cette expression-là, qui est l'intersection de deux ensembles sous-jacents de groupes donnés A1 et A2, ben, il y a une solution canonique qui consiste à prendre X comme l'intersection de A1 et A2. Alors, encore une fois, je m'excuse, là, il devrait y avoir, enfin, on ne voit pas la graisse. Ici, cette intersection-là, c'est l'intersection riche, c'est-à-dire c'est la construction de groupes qui fabrique un groupe à partir de A1 et A2. Alors, cette solution canonique va nous permettre de progresser dans notre problème. On était parti de cette équation-là. G7 de quelque chose doit être unifiable à l'intersection de deux objets. Alors, l'intersection de deux objets qui doivent être eux-mêmes des projections de groupe. Alors, à gauche, ça va. On a bien la projection d'un groupe. À droite, ça ne va pas. On n'a pas encore un G7 de quelque chose. On a ce N-là. Alors, ce n'est pas grave. On va continuer à mettre des équations tant qu'on peut. Donc, notre groupe inconnu ici, G, on va le chercher sous la forme H, intersecté avec un groupe inconnu. Alors, ce H, il va bien pour le premier argument de mon intersection. Et là, ici, il faut encore qu'on résolve un nouveau problème d'unification et qu'on montre que ce groupe G2, là, c'est un groupe dont la projection ensembliste correspond à celle-ci, à cette expression-là. On a un nouveau problème d'unification et il va se passer exactement la même chose que tout à l'heure. En général, il n'y a pas de solution. N, c'est une construction ensembliste. Mais j'ai une solution si A, ce n'est pas un ensemble quelconque, c'est un ensemble qui est issu, qui est sous-jacent à une structure de groupe. Si je veux expliquer ça comme une équation d'unification, je vais dire que quand je cherche un groupe dont l'ensemble sous-jacent est cet ensemble-là, alors ben, j'ai une solution canonique. Je vais arriver à résoudre mon problème. Et ainsi, j'ai terminé complètement de boucher les trous laissés par l'unification. Donc, pour revenir à ce qu'on cherchait à faire, on avait ce lemme-là, ce but-là. On va bien faire un apply, comme tout à l'heure, et les choses vont bien se passer de façon aussi souple, nous demandant aussi peu d'intervention manuelle que quand tout à l'heure, on cherchait à montrer qu'un certain nombre était impair. Donc, ce genre d'inférence, en fait, de structure, c'est quelque chose qui existe dans des langages de programmation qui sont dotés de types moins riches, disons, que Coq, et qui s'appellent des mécanismes de classe de type. Dans le contexte ici, on l'utilise avec des types dépendants, c'est quelque chose qui prend une autre dimension et qui permet, comme on vient de le voir ici, de faire véritablement de la recherche de preuves. En fait, ici, on a vraiment fait une recherche de preuves qu'un certain ensemble était muni d'une structure de groupe en instrumentant, en fait, en augmentant l'algorithme d'unification qui est utilisé par la commande apply, avec des lemmes et des résultats qui étaient prouvés dans la bibliothèque. Donc ça, c'est vraiment typiquement ce qui va donner son nom aux assistants de preuve. C'est le mot « assistant ». Donc, quand on regarde les différents assistants de preuve qui existent dans la nature, hein, on en a vu déjà plusieurs dans le cadre de ce cours et de ce séminaire, on a vu Koch, on a vu Agda, il en existe une grande famille, mais ils partagent tous à peu près cette structure-là. Ils se dotent d'un choix de logique, en fait, qui est vraiment le formalisme rigoureux dans lequel tout va être exprimé. Et ce formalisme très rigide permet de donner une définition formelle à ce qui est un énoncé mathématique bien formé, ce qui est une preuve bien formée, et ce qui est une preuve correcte dans une certaine conjecture. Et cette vérification est tellement routinière et mécanique qu'on peut l'implanter sous la forme d'un programme qu'on appelle le vérificateur de preuve. Et si on a confiance en ce programme-là, en fait, on a confiance en toutes les preuves qu'il valide. Mais, j'insiste, seulement une logique et un vérificateur, ça ne fait pas un assistant de preuve. Parce que la distance qui sépare le langage qui est utilisé ici du langage qui est utilisé sur un tableau dans les séminaires de mathématiques est immense, en fait. Et tout le but de l'assistant de preuve, c'est d'arriver à donner des techniques qui permettent d'assister l'utilisateur dans cette construction d'énoncés et de preuves. Et voilà la partie qui donne son nom vraiment au logiciel. Enfin, le but d'un assistant de preuve, c'est évidemment de permettre d'exprimer des énoncés. Et donc, ces énoncés-là, ils sont collectés, ils sont rassemblés dans des bibliothèques numériques qui contiennent en fait tout le corpus en fait de littérature qui a été validé par le vérificateur. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu rapidement sur les différentes boîtes que j'utilise sur ce schéma, parce qu'en fait, je pense que même pour le vérificateur de preuve, on peut dire que c'est autant de sujets de recherche. C'est pas du tout fixé et bien compris la bonne façon d'organiser cette architecture, même si l'architecture en général est quelque chose qui est partagé par plein de systèmes. Je vais commencer par la logique. Alors, peut-être que tout ce cours pourrait être une illustration, tout le cours de Xavier, en fait, pourrait être l'illustration que la bonne logique, le bon langage logique pour représenter des énoncés et des démonstrations, c'est un sujet de recherche actif. Et c'est un sujet de recherche, en fait, qui trouve ses racines dans ce qu'on appelle la crise des fondements, mais il y a quelque chose, moi, que je trouve remarquable dans cette chronologie, c'est que la même année, il y a deux articles qui paraissent, l'un par Zermelo, qui donne le Z de ZF, Zermelo-Frankel, et l'autre de Russell. Alors, cet article-là, c'est probablement le ou l'un des articles qui donnera en fait la théorie des ensembles, au sens où on l'utilise aujourd'hui. Et celui-ci, c'est à ma connaissance la première occurrence de la notion de type en tant que spécification en fait pour classifier en fait des énoncés. Alors ici, il s'intéresse plutôt à éviter des problèmes d'autoréférence. C'est vraiment quelque chose qui va trouver un écho en fait beaucoup plus tard dans la théorie des langages de programmation. Alors, la théorie des ensembles a connu le succès qu'on sait comme langage de fondation des mathématiques. Et évidemment, on a aussi des assistants de preuve basés sur la théorie des ensembles. Alors, je suis peut-être un peu ignorante sur le sujet. En fait, j'en connais surtout un qui s'appelle Mizar, qui est en fait assez ancien. Il date des années 70 et il est toujours utilisé aujourd'hui. Même antérieur à ça, on trouve dans le versant théorie des types des tentatives de fondation de mathématiques un autre assistant de preuve qui s'appelle Automate, développé par un mathématicien qui s'appelle Nicolas De Bruyne, donc une dizaine d'années, je pense, avant les débuts de Mizar. Et là, par contre, en fait, cette famille d'assistants de preuve basée sur la théorie des types va être beaucoup plus féconde, en fait. La raison pour laquelle cette branche-là va avoir beaucoup plus de succès, c'est vraiment des raisons, je pense, d'ordre pratique. Si on essaye de faire de la formalisation des mathématiques en pratique, on a rapidement besoin de classifier des énoncés bien formés, de représenter des structures de données pour des preuves, pour des programmes. Et en fait, ce formalisme-là se trouve beaucoup plus riche, fécond et adapté que celui-là. Et lorsqu'on regarde un petit peu sous le capot de ce qui se passe avec Mizar, on se rend compte que ben, pas dans le langage qu'on utilise pour énoncer les énoncés mathématiques, mais dans le langage manipulé par l'assistant preuve, on retrouve des types, en fait. Alors, je vais passer à ma boîte automatisation, assistant de preuve. J'ai insisté sur le fait que cette automatisation est nécessaire pour combler le fossé de granularité de langage. L'exemple qu'on a vu sur les figures de style qui nous permettaient de lire et de manipuler des énoncés sur les groupes, c'est le genre de choses qui nous permettent de synthétiser des énoncés, de passer d'une représentation avec des notations modernes et concises à des énoncés totalement non ambigus et précis, manipulables par l'assistant de preuve. Il y a une autre forme d'automatisation sur laquelle je n'ai pas insisté, c'est l'automatisation de preuve. De la même façon qu'on a un fossé entre les énoncés compris par le vérificateur de preuve et les énoncés qu'on manipule, il y a aussi un fossé entre le degré de détail qu'on doit donner à l'assistant de preuve pour qu'il comprenne une preuve et le degré de détail que l'être humain est capable de lire et de comprendre. Donc la preuve automatique, qui est une branche, disons, cousine, mais différente de la logique informatique, c'est ce qui consiste à écrire des algorithmes qui produisent automatiquement des preuves d'un énoncé désiré. Alors ici, on s'intéresse à une forme assez particulière de preuve automatique, qui n'est pas forcément quelque chose qui se veut être très efficace sur des gros problèmes pour découvrir de nouvelles preuves, mais plutôt pour rendre aussi facile que sur le papier, ou peut-être même un tout petit peu plus si possible, des preuves un peu routinières, qui n'ont pas de contenu intéressant. Et en fait, pour les implanter, on fait des choses qui ressemblent beaucoup à de la vérification de programme, parce qu'on écrit des programmes pour l'assistant de preuve, par exemple dans sa logique, on prouve la correction de ces programmes et on obtient des programmes qui nous fournissent des preuves formelles automatiques d'énoncés. Alors, à petite échelle, comme pour faire des identités remarquables, ou à plus grande échelle, de façon plus sophistiquée, je vous donne juste un exemple rapide d'un travail très récent qui, moi, m'impressionne beaucoup. On est capable d'automatiser en fait, la découverte des informations d'asymptotiques sur des suites définies comme celle-ci, par exemple. Ça, c'est relié aux travaux de Ron Zeilberger que j'ai mentionné ou au survey de Bruno Salvi que j'ai cité aussi. En fait, ça, c'est vraiment des choses que des algorithmes symboliques savent manipuler. Si on les prouve correctes, et c'est ce qu'a fait Manuel Lelbert dans un travail assez récent, on obtient en fait, des procédures automatiques d'établissement d'asymptotiques de suites. La boîte qui était en bas de mon schéma, en fait, c'est évidemment l'objectif final de l'utilisation de ces assistants de preuve. L'objectif final qui est de constituer un corpus numérique de mathématiques formalisées. Alors ici, là, cette photo illustre l'étagère de mon bureau quelque part en 2012, où en fait on voit qu'une collection de livres, disons, de références. Sont terminés par deux petits livres bleus qui décrivent en fait une démonstration particulière, la démonstration du théorème de l'ordre impair, qui a un résultat remarquable de théorie des groupes finis. Et j'ai eu la chance de participer en fait au travail dirigé par Georges Gontier, qui a amené à une formalisation complète, donc non seulement de cette preuve, mais aussi en fait de tous les prérequis bien sûr, en partant d'une définition des booléens, des entiers naturels, etc. Donc là, l'objectif ici, c'était pas de vérifier dans les détails la preuve qui est dans ces bouquins bleus. Enfin, en tout cas, il y avait une grande confiance que ces preuves-là étaient correctes, mais c'était de comprendre comment organiser en fait dans la machine en fait un corpus de mathématiques formelles qui soit aussi lisible, intelligible, cohérent que ce qu'on peut trouver sur cette étagère. Alors. Je pense qu'il est temps de conclure avec quelques perspectives. Donc j'ai essayé de donner un petit aperçu dans cet exposé de l'intérêt, disons, de l'impact que pourrait avoir l'utilisation d'assistants de preuve pour les mathématiques. Le premier accent que j'ai mis, c'était sur la preuve de programme. Évidemment, je n'ai donné qu'un tout petit aperçu des possibilités que l'on a aujourd'hui avec des assistants de preuve. Donc, les expériences que j'ai montrées avec les intégrales étaient assez limitées, même si elles pouvaient déjà montrer des phénomènes intéressants. Mais avec une généralisation des techniques que j'ai montrées, on peut faire beaucoup mieux. Et on peut aller, par exemple, jusqu'à la vérification d'un solveur en équation différentielle ordinaire. C'est un travail aussi assez récent de Fabien Himmler qui a permis de vérifier les calculs qui sont appliqués dans une preuve fameuse due à Warwick-Tucker, du 14e problème de Stephen Smale, autrement dit de l'étrangeté de l'attracteur de Lorentz. Donc, l'attracteur de Lorentz, c'est un phénomène qui se passe pour la solution d'une certaine équation différentielle ordinaire, et on a un phénomène qui est qui est décrit par cette image-là. Alors, cette image-là elle-même est discutable parce qu'en fait, on a un phénomène chaotique qui fait que même représenter graphiquement le comportement de la solution, c'est quelque chose qui est difficile. Mais donc, on peut énoncer mathématiquement les propriétés de cette solution et son étrangeté. Et le problème, c'est que pour l'établir, on n'a pour l'instant aucune autre possibilité que de faire appel à des calculs numériques rigoureux dans l'esprit de ce que j'ai raconté. Alors là, j'insiste, on ne parle que de la vérification des calculs, et la preuve de Warwick-Tucker n'est pas faite que de calculs, mais il y a aussi des exemples fameux de réalisation où on vérifie à la fois des calculs, des preuves, et l'usage qui est fait de ces calculs dans les preuves. On a vu qu'il y a quelque chose à faire potentiellement à ce stade-là. Le premier travail, d'envergure qui a été mené à bien sur ce type d'activité, c'est probablement la vérification du théorème des quatre couleurs. Donc ce résultat relativement fameux de combinatoire, de graphe, qui a été mené à bien par Georges Gontier en collaboration avec Benjamin Werner, il commence à y avoir un certain nombre d'années. Et la version la plus fameuse, disons, je pense, d'une grosse preuve calculatoire dont les deux versants ont été formalisés, c'est probablement la vérification de la preuve formelle de Thomas Rales, obtenue en 2015, de sa preuve de la conjecture de Kepler. Alors là encore, une conjecture facile à comprendre. Quel est l'empilement qui réalise la meilleure densité pour des sphères en dimension 3? Donc on voit la solution sur tous les marchés, mais la prouver, ça a pris un certain nombre de siècles. Il y a une longue histoire de preuves fausses de ce résultat, jusqu'aux années 50 où le mathématicien Laszlo Toth suggère une stratégie qui permettrait de conclure avec l'usage d'un ordinateur. Thomas Rales reprend cette stratégie et l'amène à bien avec des contributions importantes et mène à bien aussi les calculs nécessaires. Mais vous voyez ici la différence entre l'annonce de la preuve et l'acceptation de l'article dans la revue Annals of Mathematics qui annonce à cette occasion que, dorénavant, elle ne prétendra plus vérifier les calculs soumis éventuellement avec des articles publiés dans la revue. C'est ce qui a motivé Thomas Rales à se lancer dans ce projet, qu'il a réussi à mener à bien, donc complètement. Donc, on a bien fait le tour, je pense, de cette notion de preuve de programme en essayant de se convaincre de la nécessité, de l'intérêt, sinon de la nécessité de ces preuves. Je voudrais aussi plaider pour la formalisation de mathématiques non calculatoires. Alors, là encore, je vous ai donné un tout petit aperçu rapide en fait, du genre de techniques qui peuvent être mises en jeu et du genre de résultats qu'on réussit à obtenir. J'insiste sur la formalisation de mathématiques contemporaines. Le théorème de l'ordre impair, c'est des mathématiques contemporaines, mais pas récentes. Et il existe maintenant des entreprises, des projets en fait, de formalisation qui concernent des résultats beaucoup plus récents. Par exemple, le mathématicien britannique Kevin Buzzard a lancé un projet de formalisation des objets introduits par Peter Scholze et qui lui ont valu la médaille Fields cet été. Ça, c'est un projet qui est vraiment convaincant parce qu'il s'agit vraiment de se confronter aux mathématiques dans leur fabrication. Et c'est possible, on est assez convaincus qu'ils vont arriver à mener à bien ce projet. C'est possible en particulier parce que ce sont des gens qui comprennent ces mathématiques, qui les formalisent. En fait, jusqu'à présent, il faut bien dire que les assistants de preuve, de façon peut-être aussi curieuse que ça puisse paraître, n'ont pas été trop utilisés par les mathématiciens. Et peut-être parce que l'accent a surtout été mis sur l'intérêt de l'usage de ces outils pour la vérification très, très scrupuleuse des preuves. Et peut-être que ce n'est pas finalement l'argument de vente le plus pertinent pour des chercheurs en mathématiques. Par contre, il est très clair que lorsqu'on cherche à bien formaliser des mathématiques sur un ordinateur, en fait, on fait quelque chose qui est très similaire au fait de bien programmer. En fait. On essaye de dégager des bonnes abstractions, on essaye d'organiser son développement de façon agréable. Et en fait, faire ce genre de travail, c'est vraiment très proche de la méthode axiomatique qui est mise en avant par par le collectif Nicolas Bourbaki. Et je pense que si on arrive à rendre les assistants de prof plus ergonomiques, plus utilisables, il y a beaucoup de choses à faire encore pour que ce soit un environnement de travail agréable et utilisable par des gens qui ne sont pas experts dans le domaine de recherche des preuves formelles. Mais si on arrive à ce degré d'utilisabilité, je pense qu'on peut espérer de façon assez confiante qu'on découvrira de nouvelles mathématiques, vraiment nouvelles. Et en fait, cet espoir n'est pas très audacieux, parce qu'en fait, ce sont des choses qui se passent déjà. Je vous mentionne ici encore un résultat récent de théorie de l'homotopie. En fait, cet article-là, c'est un article sur papier. Mais une généralisation d'un théorème d'homotopie a été obtenue par leurs auteurs en représentant dans la machine le théorème d'origine. Et je vais conclure sur cette perspective. Merci.